Phare FM Lyon Dauphiné 107.
L'invité.
Cet été, le collectif franco-belge de professionnels de l'enfance de l'Observatoire de la Petite Sirène a publié dans plusieurs pays d'Europe un manifeste pour alerter le grand public sur la nécessité d'avoir accès à une information impartiale sur le changement de genre chez les mineurs. Le nombre d'adolescents qui veulent changer de sexe aurait été multiplié par 10 en 7 ans d'après l'assurance maladie. Le phénomène toucherait davantage les jeunes. 70% des bénéficiaires suivis par l'assurance maladie ont entre 18 et 35 ans. Rencontre cette semaine avec Olivia Sarton, ancienne avocate au barreau de Paris, directrice scientifique des juristes pour l'enfance et membre donc de l'Observatoire de la Petite Sirène. Bonjour Olivia.
Bonjour Anaïs.
Que dit cette tribune ?
Alors la tribune, elle alerte d'abord comme elle le fait. C'est une tribune qui s'ajoute à de nombreuses tribunes qui ont été publiées depuis maintenant à peu près 2 ans. Et elle alerte sur la prise en charge des enfants, des mineurs, puisque vous avez parlé des chiffres concernant les 18-35 ans. Mais l'Observatoire de la Petite Sirène s'intéresse aux mineurs, donc les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Et elle veut alerter sur leur prise en charge, que ce soit au sein des hôpitaux ou en secteur libéral privé, sur la prise en charge des jeunes, des enfants, qui se disent en questionnement de genre, c'est-à-dire qui remettent en cause leur identité sexuée telle qu'elle leur a été attribuée, telle qu'elle a été constatée à la naissance. D'abord, elle alerte et puis elle demande d'avoir des chiffres sur les mineurs qui sont concernés et qui sont soignés et sur la manière dont ils sont pris en charge.
Qui se disent transsexuels, c'est une remise en question même de leur vision de leur genre finalement. Qu'est-ce qui vous interpelle ? C'est le fait qu'ils ne sont pas encore assez matures pour choisir ?
Alors, ces enfants et ces jeunes traversent une période qu'on connaît bien, l'enfance et l'adolescence, qui est par définition une période de construction identitaire dans laquelle on cherche son identité. On cherche qui on est, et puis par ailleurs, c'est une période de réversibilité, c'est-à-dire une période de tâtonnement durant laquelle on expérimente, on adopte des positions, des manières de vivre, des manières de faire qui sont le propre de la jeunesse et de l'adolescence et qui sont normalement réversibles. Les enfants qui se posent des questions, parce que la plupart le disent, ils ressentent un mal-être, ils se posent des questions sur ce mal-être. Et beaucoup disent qu'ils vont sur les réseaux sociaux ou sur du site internet et ils pensent avoir trouvé la réponse à leur question de mal-être. Et la réponse qu'ils pensent avoir trouvée, c'est qu'ils seraient d'un autre genre, d'une identité de genre différente du sexe qui a été constaté à naissance. Ils se disent transgenre. Ces questionnements sont légitimes. Ils existent depuis longtemps, on les observait majoritairement avant chez les garçons, plutôt chez les garçons. Avant, il y avait aussi beaucoup de filles qui se disaient garçons manqués. C'était des questionnements de genre qui passaient, puisqu'on estime que les jeunes, avant qu'ils soient pris en charge dans ces traitements transaffirmatifs, entre 70 et 98% se réconciliaient avec le sexe constaté à leur naissance. Donc aujourd'hui, ces jeunes ont tend à donner une réponse que nous, observatoires de la Petite Sirène, nous estimons un peu trop rapide, un peu trop définitive à un questionnement qui est de l'ordre des questionnements légitimes de l'adolescence.
Alors vous dénoncez aussi l'activisme d'associations militantes LGBTI. Elles vous répondent que vous êtes transphobe, qu'elles ne font pas de prosélytisme, que vous promouvez les thérapies de conversion. Finalement, c'est un peu la guerre à celui qui arrivera à se faire le plus entendre. Qui a raison, qui a tort là-dedans ? Qui est-ce qu'on écoute ?
Alors bien sûr, il faut écouter l'observatoire. Nous critiquons l'écartement de toute réalité biologique. On a un peu l'impression, parfois, et vous verrez sans doute, c'est un terme que vous allez retrouver de la part de différentes critiques de ce mouvement transaffirmatif, on a l'impression d'une espèce de gnose, au sens de la gnose chrétienne, c'est-à-dire vraiment une dissociation du corps et de l'esprit. Et là, le corps est considéré comme un instrument qu'on peut manipuler, bien sûr, à son gré, mais qui est totalement indépendant de l'esprit, qui serait totalement à définir. C'est l'esprit qui détermine qui est le corps et comment le corps doit être. C'est ce que disent les militants transaffirmatifs quand d'abord ils disent que la transidentité n'est pas une maladie. Ça, c'est acté depuis un certain temps. Et donc, ils disent que c'est une identité libre que chacun doit définir. Et ils vont même jusqu'à dire que ça ne ressort pas du domaine du médical et que finalement c'est au médecin de fournir une solution médicalisée, certes, mais parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement que de passer par une technique médicale pour conformer le corps à ce qu'on souhaite être. Donc l'Observatoire, bien sûr, critique cette manière de faire qui axe tout sur une autodétermination de soi par un esprit qui écarte totalement toute donnée biologique, toute donnée réelle, et qui donne la primauté absolue à l'esprit, peu importe ce qu'il fait subir ensuite au corps pour le conformer à l'image qu'il a de lui-même. c'est intéressant parce que, par exemple, la réalité du corps, on ne peut pas la nier. Il y a des travaux très intéressants qui ont été menés depuis quelques années par une médecin aux États-Unis qui travaille sur la santé féminine. Et elle observait que quand elle a choisi la spécialité santé féminine il y a 25 ans, elle a été cantonnée à la gynécologie. Or, elle dit la santé des femmes, ce n'est pas la gynécologie. C'est par exemple une femme qui arrive et qui présente un AVC ou qui présente une pathologie quelconque, elle doit être prise en charge d'une manière spécifique différente des hommes parce que son corps réagit différemment de celui de l'homme aux médicaments qu'on va fournir, par exemple, pour traiter l'AVC. Voilà, ce qui montre que le corps féminin, le corps masculin ont des réalités propres qu'on ne peut pas nier au prétexte d'une supériorité de l'esprit.
Début 2022, 294 mineurs étaient suivis en France pour transidentité dans le cadre d'une procédure d'affection longue durée, donc reconnue par la Sécurité sociale, selon un rapport remis au gouvernement. Un chiffre en hausse, forcément, puisqu'il n'existait pas de service spécialisé avant 2013. Qu'est-ce qui vous effraie dans ce chiffre ?
Alors là, on touche vraiment à un problème qui est le cœur de la controverse et qui, pour nous, est très important. C'est-à-dire qu'on a des enfants dont le corps est sain, S-A-I-N, qui ne présentent aucune pathologie et sur lesquels on va intervenir de manière médicale, avec des conséquences souvent irréversibles et parfois dramatiques, et qu'on va transformer en patients à vie. Selon les chiffres de la Sécurité sociale, on en a 294 qui sont suivis en ALD. Mais le rapport Jutant, qui a médiatisé ces chiffres, dit lui-même qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas suivis en ALD, soit dans les hôpitaux, soit en milieu hospitalier. Là, on est à Lyon. Nous avons appris par des parents qu'une jeune fille de 14 ans venait de recevoir une ordonnance de son médecin psychiatre disant qu'on pouvait opérer sur elle une mastectomie, qu'elle était consentante à l'ablation totale des deux seins. Voilà ce qui nous pose problème. C'est qu'aujourd'hui, on a, par exemple, cette jeune fille de 14 ans qui a un mal-être profond, qui va voir un médecin psychiatre qui diagnostique une dysphorie de genre et qui dit pour résoudre celle-ci, il faut la médicaliser. Donc elle doit déjà être mise sous testostérone, donc l'hormone masculine, et on va procéder à une ablation des seins. Ce sont des process irréversibles. L'ablation des seins est irréversible. Donc le gouvernement prétend qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale définitive en France sur des mineurs, c'est faux. Une mastectomie sur des jeunes filles, ce sont des opérations irréversibles. La testostérone produit des conséquences irréversibles aussi, puisque bon, il y a les conséquences extérieures qu'on voit, la pilosité, la voix qui devient plus grave, et ça ne changera jamais, mais ça affecte aussi la prise de testostérone, par exemple, affecte le fonctionnement du corps féminin. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se plaignent de douleurs vaginales importantes après avoir pris de la testostérone, une sécheresse, et certaines sont obligées d'aller jusqu'à l'hystérectomie parce que leurs organes ont été abîmés par la prise de testostérone. Donc on a sur des mineurs qui n'ont pas encore la capacité de consentir des traitements définitifs. Vous savez que les mineurs n'ont pas le droit d'aller acheter de l'alcool, ils n'ont pas le droit de passer leur permis de conduire, ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont quand même des actes beaucoup plus anodins que de consentir à des traitements irréversibles qui vont mutiler leur corps, alors que même qu'ils ne peuvent avoir pas d'idée des conséquences que ça va produire, puisqu'ils n'ont pas d'expérience en vie réelle. La plupart des jeunes qui se définissent comme trans disent qu'en général, ils n'ont pas eu, par exemple, d'expérience sexuelle avant d'arriver à leur consultation médicale. On a des enfants très jeunes, parfois, qui arrivent vers 9-10 ans, mais même sur les plus âgés, qui ont 14-15 ans, il y en a beaucoup qui disent qu'ils se sont d'abord identifiés comme homosexuels, soit gays, soit lesbiennes, mais ils disent « j'ai pas expérimenté de relations sexuelles, je suis homosexuel, je suis gay ou je suis lesbienne, mais c'est comme ça qu'ils s'envisagent ». Mais ils n'ont pas d'expérimentation, donc ils vont abîmer leur sexualité de manière plus ou moins grave, sans avoir même expérimenté la notion de vie sexuelle, de plaisir sexuel. Ils vont connaître, pour certains, des problèmes d'infertilité, voire de stérilité, à un âge, quand on a moins de 18 ans, il est rare qu'on se projette dans une vie avec des enfants, et il est rare qu'on ait envie d'avoir des enfants quand on a soi-même 14-15 ans. Et donc, ils vont renoncer définitivement à avoir des enfants, alors que c'est des décisions qu'on ne peut prendre en connaissance de cause qu'à l'âge adulte. Pour autant qu'on puisse les prendre en connaissance de cause à l'âge adulte, puisqu'on a même des adultes trans qui témoignent du fait que, même âgés de 35 ans, ils étaient en incapacité de vraiment comprendre les conséquences de la décision qu'ils ont prise.
Les associations LGBTI affirment que les inhibiteurs hormonaux ne causent aucun dommage réversible. Vous pensez que non ? La transidentité n'est plus une maladie en France depuis 2010. Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes enfants, de ces jeunes adolescents qui savent pas qui ils sont ? Comment on les aide ?
Ce que nous demandons, c'est que la France s'inspire des expériences des autres pays. Parce qu'effectivement, vous le dites, en France, c'est assez récent la prise en charge de ces enfants. Ce qui n'est pas le cas des autres pays comme l'Angleterre, la Suède, la Finlande, et ce sont des pays qui sont revenus sur la prise en charge de la mise sous bloqueur de puberté, les inhibiteurs de puberté des enfants, au vu des conséquences. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que ce serait bien qu'on puisse arriver à discuter sereinement avec les militants, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est que c'est un domaine dans lequel tous les jours on a des nouvelles découvertes. Donc aujourd'hui, la question que se posent par exemple les spécialistes, c'est de se dire, ces fameux inhibiteurs de puberté, donc c'est des bloqueurs de puberté, jusqu'à maintenant, il a toujours été dit, on met la puberté sur pause pendant 2, 3, 4, 5 ans, et puis ensuite, en fonction de ce que décide l'enfant, éventuellement, on passe pas aux hormones du sexe opposé, mais pour le cas où l'enfant dirait finalement je vais être une fille s'il était une fille à naissance, on arrête les bloqueurs de puberté et tout se remet en marche comme avant. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la puberté n'a pas que des conséquences physiques, physiologiques, mais elle a aussi à voir avec le développement du cerveau, puisque à l'époque justement de la puberté et des 12 années a priori qui suivent, le cerveau est en réorganisation extrêmement importante. Et les hormones que chacun développe à la puberté ont à voir avec la réorganisation et le développement de ce cerveau. Donc on ne connaît pas aujourd'hui les conséquences même des bloqueurs de puberté qu'on a dit jusqu'à maintenant réversibles sur le développement de la maturité, le développement intellectuel et la maturité psychique des enfants qui sont mis sous bloqueur. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'abord d'avoir des véritables études qui soient diligentées, éventuellement un moratoire qui soit adopté comme c'est le cas en Suède, puisque en Suède, après 20 ou 30 ans de traitement affirmatif, maintenant c'est devenu quasiment impossible de mettre un enfant sous traitement. C'est que dans le cadre de protocoles expérimentaux très encadrés. Mais sinon, pour la plupart des enfants, on conseille une phase qu'on appelle dite prudente d'attente. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'enfant ton questionnement de genre il est absurde ou alors la réponse que tu lui donnes n'est pas adaptée. On dit on va explorer tout ce qui t'amène à ce questionnement de genre et on attend jusqu'à un âge où le corps sera développé et l'enfant sera en capacité de donner un véritable consentement, ce qui implique effectivement un accompagnement psychothérapeutique important puisqu'il y a toujours ce mal-être important et avec la puberté, les enfants qui présentaient déjà une dysphorie de genre vers 10-11 ans vont avoir ce mal-être et ce malaise accentué. Il y a beaucoup de jeunes filles qui disent qu'elles ne supportent pas d'avoir leurs règles, de voir leur poitrine se développer. Donc il faut vraiment un accompagnement pour que ces enfants puissent trouver un espace de dialogue et un allègement à ce mal-être. Ensuite, quand ils arrivent à l'âge adulte, ce mal-être persiste et qu'ils décident en toute connaissance de cause que la seule manière de la résoudre, c'est de procéder à un traitement médical sur leur corps, à un parcours médical de transformation, de transition. Ce sont des adultes, c'est à eux de décider. Mais en attendant, il faut permettre aux enfants d'avoir cet espace de prudence où on les laisse explorer, mais sans les enfermer dans quelque chose qui soit définitif.
Ce que vous dites, finalement, c'est qu'on ne touche pas aux mineurs, médicalement en tout cas. On n'y touche pas, que ce soit avec des traitements et encore moins avec des opérations. C'est ça le fond du discours ?
Exactement. Alors, on ne touche pas aux mineurs et il y a quand même une autre donnée qui est importante. C'est qu'on estime qu'il y a entre 60 et 70% de ces mineurs qui ont des troubles importants associés, des troubles psychiatriques, traumatiques. Il y en a beaucoup qui ont un profil soit autistique, soit HPI. Avoir une réponse si rapide à la détresse qui manifeste en disant si tu as cette détresse, si tu as ce mal-être, c'est parce que tu es trans et il suffit de changer de genre, de sexe pour que ton mal-être se résout. Finalement, on peut aussi estimer que c'est une forme de refus de soins des pathologies existantes que l'enfant pourra avoir. Donc on demande d'avoir effectivement, on ne touche pas au corps de l'enfant et puis on traite son mal-être, on traite la cause qui peut être une agression sexuelle, donc comment est-ce qu'on en parle avec lui, comment est-ce qu'on fait qu'il puisse aller mieux après cette agression sexuelle, un enfant qui a un trouble autistique, comment on le prend le mieux possible en charge, etc., etc.
On a un peu l'impression que la transidentité a forcément une origine médicale ou un trouble à son origine.
Alors je ne peux pas vous répondre de manière très précise parce que je ne suis pas médecin. Ce qui est certain, c'est qu'on constate quand même. Toutes les études montrent que 60 à 70% des jeunes, je ne parle pas des adultes, des jeunes qui présentent un questionnement de genre ont des pathologies présentes antérieurement. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour tous les jeunes ? Ça, je ne peux pas vous répondre. Il y en a 30% qui ne présentent pas de troubles comme ça. À quoi est due la transidentité ? Je ne suis pas médecin, ça, je ne peux vraiment pas vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui avait toujours existé dans une très petite partie de la population, qui était donc quasiment 100% masculine, qui a donc existé, on l'a vu, au travers des siècles. Et aujourd'hui, les chiffres augmentent de manière importante. mais la population qui augmente présente plus, beaucoup plus, ces troubles traumatiques, psychiatriques par rapport à la population antécédente.
On ne touche pas aux mineurs donc et on attend, on a cette période de prudence pour voir comment ça se développe et comment évolue la situation. Mais on attend jusqu'à quand finalement, à quel âge est-ce qu'on peut estimer qu'une transition hormonale peut être envisageable?
Alors ça c'est une vraie question parce que la définition de l'enfant au sens où il requiert une protection juridique adaptée selon la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est jusqu'à son 18e anniversaire. À partir de là, il sort du statut de minorité et il n'a plus la protection juridique spécifique qui lui est due. Cependant, les études récentes dont je vous parlais sur le développement neurologique montrent que la construction du cerveau se termine entre 22 et 24 ans. Donc, est-ce qu'un jeune adulte de 18 ans est capable de consentir à ces opérations sous prétexte qu'il vient juste d'être majeur? C'est une vraie question qu'on peut poser. Surtout aujourd'hui où on voit la fragilité et le mal-être des jeunes. Hein, on a quand même parfois des jeunes qui sont sortis de la période de confinement, des jeunes adultes, et qui ont demandé à bénéficier d'un parcours médical de transition alors qu'ils sortaient d'une période de très grande fragilité, parfois en ayant coupé des liens sociaux en raison du confinement lui-même. Donc on peut se poser la question de savoir à partir de quand on est capable de donner un consentement valide à ces opérations. Je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que je pense que la prudence s'impose le plus tard possible. Voilà.
On l'a évoqué tout à l'heure en début d'entretien, ceux qu'on appelle les détransitionneurs. Alors on n'a aucun chiffre fiable sur le nombre qu'ils sont, qu'ils seraient, ces hommes et femmes qui regrettent leur transition. L'Observatoire de la Petite Sirène les affirme nombreux. Pourquoi ?
Alors c'est les témoignages qui nous parviennent. Il faut savoir qu'entre le moment où un jeune, par exemple, commence un parcours de transition et le moment où il va se rendre compte que ce n'était pas la bonne voie pour lui, il faut un certain nombre d'années qui s'écoulent. On estime que la détransition intervient en moyenne entre 5 à 7 ans après le début de la transition, puisque la transition est progressive. On commence d'abord par les hormones et ensuite les opérations qui, elles aussi, sont échelonnées. Donc on a constaté que la majeure partie des jeunes qui regrettaient, c'était entre 5 et 7 ans après leur transition. Et donc aujourd'hui en France, les parcours médicaux proposés aux mineurs étant récents, on pense que d'ici 2-3 ans, il va y avoir une courbe extrêmement importante de jeunes qui vont se rendre compte que ce n'était pas la bonne réponse aux questionnements légitimes qui se posaient. Les statistiques sont difficiles à voir. Les associations de détransitionneurs, puisqu'il y a des associations de détransitionneurs qui commencent à se mettre en place, estiment qu'ils représentent au moins 10% des transitions. Mais c'est difficile d'avoir un chiffre exact parce que les jeunes, ou les moins jeunes, hein, qui détransitionnent ne retournent pas voir les médecins qui les ont fait transitionner. Soit ils se démouillent tout seuls, soit ils vont voir d'autres médecins. Donc on n'a pas de statistiques. Et par ailleurs, c'est des associations qui aujourd'hui fédèrent des jeunes, mais on a peu de chiffres sur des adultes qui détransitionnent. Or, moi j'ai rencontré par exemple récemment dans mon métier un avocat qui avait accompagné avant la loi de 2016 plusieurs adultes qui donc devaient faire une démarche devant le tribunal pour obtenir leur changement de sexe, il les avait accompagnés. Et aujourd'hui, en 2022, il en a un certain nombre qui reviennent le voir en disant « je veux détransitionner », alors que ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont fait ce changement de sexe, entre 10 et 15 ans. Donc on a vraiment une population importante qui estime que la transition n'a pas résolu leurs difficultés ou alors ne leur apporte pas ce qu'ils cherchent. Puisqu'on sait que même si la médecine est quand même incroyablement performante, elle n'aboutit jamais à transformer réellement un corps de garçon en corps de fille ou un corps de fille en corps de garçon. On va avoir une apparence de fille ou de garçon, ça c'est assez facile de développer la barbe, la pilosité par exemple pour une fille qui veut devenir un garçon, ou pour un garçon vous avez beaucoup de chirurgie faciale par exemple pour avoir un visage de femme, mais avoir un corps fonctionnel, c'est pas la même chose. Donc on a beaucoup d'enfants ou de jeunes qui se retrouvent avec un corps qui n'est pas celui qu'ils convoitaient, et puis qui développent des troubles autres, puisqu'ils sont assez dysfonctionnels. On sait que par exemple sur la chirurgie du bas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de difficultés, que ce soit difficultés d'ordre sexuel, mais aussi tout simplement des difficultés avec des infections urinaires à répétition, par exemple. Et les opérations ne sont pas uniques, elles sont multiples. Hein. Pour obtenir une chirurgie génitale, ce n'est pas une opération, ça va être un nombre très important d'opérations. Donc finalement, ce qu'on ne dit pas assez, peut-être même aux adultes qui transitionnent, c'est que le corps qu'ils ambitionnent le corps que peut-être ils voient sur les réseaux sociaux quand on a des personnes trans qui se mettent en scène, ça ne correspond pas à ce qu'ils vont obtenir. Et de toutes les manières, ils ne changeront pas leur cerveau. Leur cerveau, il restera toujours, quoi qu'il en soit, celui qu'ils ont depuis toujours. C'est assez intéressant aussi, par exemple, on a parfois des trans qui disent « Mais finalement, une fois que j'ai transitionné, je me sentais tout autant décalée dans le genre d'arrivée. » Si par exemple une fille qui est devenue un garçon, elle se retrouve identifiée comme des garçons et elle vit avec des hommes, elle se sent complètement en décalage avec les conversations, presque autant qu'elle l'était avec des conversations dans son groupe de filles d'origine. Donc on voit que pour beaucoup, ça ne résout pas les questions qui se posaient et c'est une quête un peu sans fin. Donc le nombre, on l'aura je pense d'ici quelques années, mais ce qui est certain c'est qu'au Royaume-Uni, où vous savez que le service GIDS de la clinique Tavistock a donc reçu l'ordre de fermer au mois de juillet, il y a une class action qui a été lancée et les avocats qui reçoivent les plaintes pensent qu'ils vont avoir à peu près 1000 familles, donc représentant 1000 enfants, qui vont déposer plainte pour négligence médicale, estimant que le parcours de transition médicale qui a été appliqué à leur enfant a été une maltraitance médicale. Donc c'est quand même un chiffre extrêmement important au regard du nombre d'enfants qui ont été suivis par GIDS depuis plusieurs années. Et nous craignons qu'en poursuivant sur un modèle exclusivement trans-affirmatif, on ait les mêmes procès qui un jour parviennent en France.
Vous avez évoqué tout à l'heure une étude américaine, là on parle de cas anglais. L'Observatoire de la Petite Sirène évoque aussi des études et des cas suédois ou encore finlandais. Et finalement, très peu, voire pas, en France. Pourquoi la France ne se saisit pas du problème, ne voit pas le problème ?
Alors la France va s'en saisir, c'est parce qu'en France, le phénomène est plus récent qu'à l'étranger. En France, les premières prises en charge pour les enfants, c'était 2013-2014, donc on n'est même pas 10 ans. Alors qu'en Suède, ça a commencé il y a 25 ou 30 ans. Donc on n'a pas du tout le même recul. Et là, ça y est, maintenant, on a beaucoup de médecins et de psys qui s'intéressent à la question. Il y a 2 ans, quand il y a un film qui est sorti, qui s'appelait Petite fille, qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup médiatisé, la plupart des gens ont découvert la transidentité chez les enfants. C'était quelque chose qui était vraiment totalement inconnu. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des médecins qui refusent de prendre en charge les enfants dans leur consultation ordinaire en disant « mais c'est un domaine que je ne connais pas, il faut aller voir une consultation transidentité spécialisée ». Ce que nous, on conteste. On dit un enfant qui vient voir un psy, n'importe quel psy est capable de suivre cet enfant du moment qu'il applique sa pratique, ses règles médicales de pratique professionnelle. Donc aujourd'hui en France, on a ce décalage dans le temps qui est en train d'être rattrapé. Donc on a des premières études qui commencent à être lancées. Mais c'est vrai que on n'a pas l'expérience encore qu'ont le Royaume-Uni ou la Suède notamment, ou même les États-Unis où on a des cliniques qui sont beaucoup plus anciennes que la clinique en France.
Merci beaucoup Olivia Sarton pour toutes ces informations. On rappelle donc que vous êtes ancienne avocate au barreau de Paris, directrice scientifique de Juristes pour l'enfance et membre de l'Observatoire de la Petite Sirène. Vous retrouvez toutes les infos et notamment ce manifeste sur le site de l'Observatoire www.observatoirepetitesirene.com. Merci Olivia.
Merci Anaïs.
Phare FM Lyon Dauphiné.
107.
107.